Vous êtes sur RTL.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, je vous le disais, un chef de la jeune génération déterminé, mais aussi engagé. Bonsoir Guillaume Chanchez.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Publiez Post-Cuisine aux éditions du Chêne. On y reviendra dans un instant, mais je voudrais quand même vous présenter rapidement. Vous avez 30 ans, vous avez été nommé talent de l'année par le Goemio en 2016. Il y a eu Top Chef sur M6 en 2017 et vous avez été sacré chef de l'année par le JQ le magazine en 2019. Bref, une belle ascension, chef étoilé, habituellement au fourneau dans votre restaurant parisien, le Nezo, mais évidemment pas actuellement. Sauf qu'avant-hier, vous avez concocté un menu de fête pour des femmes sans-abri à la halte. C'est au sein de l'hôtel de ville, c'est là qu'on accueille et qu'on abrite des femmes SDF. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait, je crois, en collaboration avec le Secours Populaire et la plateforme Just Eat.
Bah écoutez, l'idée était assez simple. L'idée était malgré la pandémie de pouvoir rassembler 40 femmes sans abri autour d'un déjeuner, voilà, avec des beaux produits de terroir, une cuisine bien faite. Bon, on avait envie de transmettre des émotions malgré la période, malgré tout ça, quoi.
Vous avez pu échanger un petit peu avec ces femmes?
Oui, brièvement. C'est toujours un peu compliqué, mais on sentait qu'elles étaient heureuses de recevoir de l'attention.
Bien sûr. Qu'est-ce que ça représente d'ailleurs pour vous, d'abord de cuisiner à l'intention de femmes sans-abri, de donner du temps aux autres et puis de ne pas être dans un contexte habituel, c'est-à-dire avec des clients qui payent. Vous voyez ce que je veux dire?
Bah écoutez, en fait, je pense que notre métier, c'est pas juste faire payer des gens. C'est aussi nourrir les populations. Ouais. C'est aussi transmettre un petit peu de bonheur aux gens. C'est tout ça. Donc finalement, la situation était pas beaucoup plus particulière que quand on accueille des clients au restaurant.
Ouais. Mais je crois que c'est pas une première pour vous. J'ai cru comprendre que, par exemple, pendant le premier confinement, vous avez cuisiné pour les soignants, que régulièrement vous participez à des maraudes. C'est-à-dire qu'il y a un engagement également de votre part.
Oui, j'essaye d'être présent sur un certain nombre d'actions en tant que citoyen finalement. Et si par le biais de mon restaurant, on peut aider pendant certaines crises à résoudre certains besoins, ben on le fait avec plaisir.
On va parler de votre livre, mais il y a 3 ans, je crois déjà, vous avez écrit un premier ouvrage qui s'intitule Humain.
Absolument.
Cette humanité, quand on est comme vous, alors médiatisée, parfois même encensée, j'ai lu des critiques qui vous encensaient, est-ce qu'elle s'exprime facilement finalement? C'est facile dans ces conditions parfois de se prendre un peu pour quelqu'un d'autre et d'oublier les autres justement.
Ouais, mais je crois que c'est pas le but de l'opération finalement. Je pense qu'il y a un moment donné, faut tout faire pour rester les pieds sur terre. Donc on est toujours très très heureux de lire un bon papier ou d'avoir un média qui dit des choses positives sur ce qu'on fait. Mais à côté de ça, on reste comme tout le monde et juste des travailleurs qui cherchent à faire correctement leur métier.
Ouais, des travailleurs qui travaillent pas en ce moment. C'est un peu le problème. D'abord, est-ce que vous espérez que quelque chose va se passer pour le 20 janvier?
Écoutez, je pense que on va pas se mentir. Je crois que la restauration en France est consciente qu'il se passera pas grand-chose pour nous le 20 janvier, malheureusement. Mais par contre, ce qui est assez intéressant à voir, c'est toute la créativité qui a été mise en place par toute la profession justement en France pour essayer de se réinventer, pour continuer à donner à manger aux gens, pour continuer à faire vivre leurs entreprises et leurs salariés. Et donc, même si les restaurants sont fermés, je trouve qu'il se passe un truc assez chouette là d'un point de vue national.
Ouais, vous-même au Nezo, vous faites du click and collect?
Oui, on a lancé une opération de, on a lancé une offre de fish and chips. Étant donné qu'on est un restaurant de poisson, ça nous paraissait assez cohérent.
Alors, tiens, effectivement, c'est un restaurant de poisson. Je tiens à dire que j'ai découvert le croque-monsieur à base de poisson dans votre livre Post-Cuisine que vous publiez aux chaînes. Ce qui est formidable, c'est qu'effectivement aujourd'hui c'est Noël, c'est aussi le jour des enfants, et on salue celle ou celui qui est derrière vers vous. On l'embrasse, bien évidemment.
Je ferai passer le message.
Donc, Post-Cuisine, c'est un livre étonnant, d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment un livre de recettes. J'ai presque envie de dire que c'est un manifeste pour une autre cuisine. J'ai tort ou pas ?
On voulait pas faire un livre de recettes, on voulait faire un livre de cuisine et un livre de cuisinier. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on explique dans le livre. C'est-à-dire qu'on on va pas vous expliquer comment cuisiner le poisson, par contre, on va vous expliquer comment le pêcher. Ouais. Et pourquoi on le fait, et comment, et par quel biais. C'est toute cette philosophie-là, finalement, que j'essaie d'intégrer avec mon équipe au restaurant, qu'on a voulu transmettre dans le livre.
Parce que ce qui est important, et peut-être très important dans votre parcours, Guillaume Sanchez, c'est qu'à la base, vous êtes plutôt pâtissier que cuisinier, et que vous n'avez peut-être pas appris comme les autres cuisiniers ce qui fait aujourd'hui votre particularité, votre différence.
En fait, je pense juste que j'ai essayé d'assumer une part de liberté qui m'a fait effectivement passer du métier de pâtissier au métier de cuisinier, restaurateur, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, par le biais de comment je fais pour me cultiver en fait et comment je fais pour apprendre ce métier. Donc moi, ça s'est passé effectivement via des vidéos sur internet, via beaucoup de livres, et c'est pour ça que j'accorde énormément d'importance finalement au métier de l'édition. C'est aussi une des plus vieilles façons d'apprendre ce métier, c'est juste en lisant des pages.
Oui, mais on sent bien d'ailleurs, et vous l'écrivez, que vous voulez incarner une sorte de rupture. Vous vous réclamez d'une génération montante, vous le dites, hein, avec du respect pour les chefs des générations précédentes, mais sans la moindre fidélité à une école. C'est-à-dire que il y a une part de vouloir un petit peu faire table rase sur un passé, non ?
Non, pas vraiment. On respecte. Je pense que toute ma génération, si je peux parler un petit peu en leur nom, respecte énormément ce qui s'est passé avant. Est très fier d'appartenir justement à la continuité de la gastronomie française. Juste, on a voulu y mettre une mise à jour en fonction du monde dans lequel on vit, en fonction de l'époque, en fonction des attentes des clients et de ce besoin d'emmener le client autre part et différemment.
Mais qu'est-ce qui fait la différence entre votre génération, entre vous, hein, vous avez 30 ans? Et puis, ces grands chefs qui ont dominé la gastronomie française pendant des décennies.
Finalement,
à un moment, en fait... vous parlez de la crème et du beurre et du gras. Je pense que c'est assez intéressant. Quel est votre rapport, par exemple, à ça, à votre rapport au gras?
Mon rapport au gras est un rapport de cuisinier, c'est-à-dire que c'est ce qui emmène le goût, c'est mon véhicule à moi en fait, c'est ce qui va stabiliser certains arômes et ramener de l'émotion à un plat. À côté de ça, ce qui fait la différence entre peut-être ma génération et les précédentes, et encore c'est vraiment pas une généralité, mais c'est ce rapport à l'environnement, au sourcing produit, à l'impact CO2 de nos restaurants, à comment gérer nos équipes, à comment créer une expérience client. Voilà, c'est ça finalement en fait qui fait un restaurant un peu différent aujourd'hui.
On dit aujourd'hui que les consommateurs évoluent peu à peu, qu'ils sont conscients notamment des questions environnementales. Ça se traduit également chez vous dans la restauration?
Oui, effectivement, ça fait une vingtaine d'années là maintenant qu'on voit la gastronomie française et mondiale se bouger un petit peu sur ces problématiques-là. Ça fait partie des mœurs et des nouvelles habitudes de consommation. Donc on voit un véritable changement, et effectivement c'est le consommateur en fait qui va pouvoir nous aider à aller de plus en plus loin en se chargeant eux en fait de cette responsabilité-là.
C'est passionnant. Post-Cuisine, le livre est signé Guillaume Sanchez, c'est aux éditions du Chêne. Merci beaucoup, et tout ce qu'on peut vous souhaiter évidemment, c'est de rouvrir
le plus vite possible
évidemment. Absolument. Merci beaucoup, merci d'avoir été l'invité d'RTL Soir. Dans quelques minutes, ce sera l'œil de Molcou, vous savez, avec Julia Molcou. Chaque soir, elle nous parle d'un artiste, d'un chanteur, d'une chanteuse. Ce sera Ben Mazuet. On peut en écouter un petit peu?
Je ne fais qu'errer, j'ai jamais fait de projet, jamais pris de pari, jamais passé même un été dans ma vie sans l'amour qui rêve, l'amour qui pleure, l'amour qui ravive. J'ai jamais fait de projet, jamais pris de pari, jamais passé même un été dans ma vie sans le cœur qui pèse, le cœur qui pleure ou le cœur qui motive.
Voilà, Ben Mazuré donc, et ce sera dans quelques minutes avec l'œil de Molcou. Mais ce sera après Le Monde tel qu'il le voit. Le Monde tel qu'il le voit, c'est l'un de vos rendez-vous des fêtes sur RTL avec les regards de spécialistes, de décideurs, d'entrepreneurs sur ce monde de l'après 2020 tel qu'ils l'imaginent. Tous se sont confiés à Anaïs Bouissou et aujourd'hui, c'est le monde de Jean-Marie Lebris. Il est paysan et il est breton.
Bonjour Jean-Marie Lebris.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Paysans Bretons. Le monde tel que vous le voyez, vous, c'est celui de la production et de la consommation peut-être un peu plus locale maintenant. Depuis la fermeture des restaurants pour raisons sanitaires, les Français se nourrissent davantage chez eux. Est-ce que ça a changé votre stratégie de marque ?
À court terme, on a été obligé de s'adapter. On a des marchés de la restauration qui se sont quasiment fermés du jour au lendemain. Donc on aura fait une très mauvaise année, nous, en termes de vente sur les marchés de la restauration. Et donc, on a dû mettre toute notre énergie sur les marchés de la grande distribution. Et je vais aller un peu plus loin, de la grande distribution en France. La grande distribution française qui, elle, nous a passé des commandes à certains moments, multipliées par deux par rapport à la même période de l'an passé. On a assisté cette année à un retour au fait maison. On a assisté à une explosion des ventes de produits tels que la farine, les œufs ou encore le beurre, parce que les gens ont réappris à cuisiner. Le beurre, par exemple, a vu ses ventes augmenter quasiment de 10% cette année, mais c'est aussi vrai pour les mentales râpées, par exemple, qui a aussi eu une croissance proche de plus de 10%. Paysans Bretons, dans ce cadre-là, a surperformé le marché, puisque nous, on affiche une croissance proche de 20% cette année.
Est-ce que vous pensez que la cuisine à la maison est une tendance durable ou seulement ponctuelle pendant la crise ?
Moi, je pense que c'est une tendance durable, parce que les gens ont compris que cuisiner, c'était prendre soin de soi, c'était choisir ses ingrédients, préparer des produits sains avec des éléments qu'on maîtrise à l'intérieur des recettes. Et donc, on est capable de choisir des produits tracés, des produits locaux, des produits de qualité. La crise aura vraiment renforcé ces tendances-là.
C'est une tendance assez générale aussi, même chez vos concurrents. Je pense à Danone, un genre du secteur, qui a annoncé un plan pour produire, consommer local, ainsi que des suppressions de postes pour se réorganiser. Est-ce que cette stratégie du consommer local correspond aussi à ce que vous allez mettre en place pour la coopérative qui gère Paysans Bretons ?
Ah ouais, très très clairement. On va demander à la fois à nos consommateurs qu'est-ce qu'ils attendent concrètement, et on va essayer de leur proposer des produits qui répondent exactement à leurs attentes, mais on va les mettre autour de la table avec nos paysans pour qu'ils expliquent leur réalité et que tous ensemble, on trouve le meilleur compromis possible. On va expliquer aux consommateurs que le lait qui est mis en œuvre dans la fabrication des produits paysans bretons, il est issu de vaches qui passent la grande majorité de l'année, plus de 200 jours par an, au pâturage. Et nous, paysans bretons, on fait vivre 3000 exploitations en fait sur ce territoire de Grand Ouest.
Les éleveurs dans tout ça, entre les exigences de qualité, de rentabilité, est-ce qu'ils s'y retrouvent avec vous ?
Évidemment, en tant que coopérative, l'entreprise, elle est dirigée par des éleveurs. Moi, je suis salarié, mais mes patrons sont des paysans. Hein. C'est eux qui sont aux manettes, c'est eux qui décident comment est-ce qu'on gère l'entreprise. Donc oui, évidemment, l'économique est au cœur de notre quotidien. Et ma mission à moi, c'est de faire en sorte que les agriculteurs qui travaillent pour Paysans Bretons aient la meilleure vie possible.
Que faut-il vous souhaiter pour 2021 ?
Pour 2021, il faut...